à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique du hérisson sur CFM Radio, votre rendez-vous mensuel avec celles et ceux qui vivent et défendent la nature au quotidien. Une émission proposée par France Nature Environnement Tarn-et-Garonne pour donner la parole à celles et ceux qui cultivent autrement, pensent autrement et osent remettre du vivant au cœur de leur territoire. Aujourd'hui, je vous propose une chronique un peu différente. Nous allons revenir sur un grand projet éducatif que l'association mène depuis cette année avec plusieurs établissements scolaires du Tarn-et-Garonne, les projets d'aire terrestre éducative. Alors, qu'est-ce qu'une aire terrestre éducative? Quels sont ses objectifs? Sur quel site avons-nous travaillé? Quels ont été les protocoles mis en place par les élèves et quels sont les premiers résultats? Installez-vous bien confortablement, aujourd'hui ce sont les choupissons qui sont de sortie.
Madame Nature est belle, Madame Nature est sauvage, Madame Nature s'appelle la terre sur laquelle vivent des sauvages. Madame Nature est belle, Madame Nature est sauvage, Madame Nature s'appelle la terre sur laquelle vivent des sauvages. Madame Nature est belle, Madame Nature est belle.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 10e chronique du hérisson. Aujourd'hui, nous allons parler pédagogie et environnement à travers les aires terrestres éducatives, qu'on appelle aussi plus rapidement ATE. L'ATE, c'est une démarche centrée autour des élèves et c'est porté par un établissement et un organisme d'éducation à l'environnement, ici c'est nous, FNE. Le projet s'étale sur minimum 2 ans, mais est reconductible, pendant lesquels les élèves vont investir un milieu naturel proche de leur école pour l'étudier, accompagné de leurs enseignants et de la structure d'éducation à l'environnement. Ce sont eux qui choisissent tout, le site en question, le sujet d'étude et plus tard les actions de valorisation et de conservation du site. Et oui, l'ATE, ce n'est pas qu'un projet d'études scientifiques, c'est aussi une démarche d'engagement éco-citoyenne, ce qui permet aux élèves de mettre concrètement main à la pâte et de s'engager activement dans la préservation d'un lieu qu'ils auront appris à aimer en l'étudiant. On écoute tout de suite Jérémy Leprince de l'Office français de la biodiversité, Cyril Lenormand, directeur académique des services de l'éducation nationale, et Gaëtan Deltour, le président de France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, nous parler un petit peu plus concrètement de ce qu'est une ATE et de ses objectifs.
Voilà, donc je m'appelle Jérémy Leprince, je suis inspecteur de l'environnement à l'Office français de la biodiversité à Montauban. Les aires terrestres éducatives ont 3 grands objectifs en fait. C'est d'abord former à l'éco-citoyenneté, deuxièmement c'est reconnecter les élèves avec la nature, et enfin c'est favoriser le dialogue entre tous les usagers de la nature. Donc il s'agit, je ne sais pas si les auditeurs savent ce que c'est une aire terrestre éducative, mais c'est, il s'agit d'une aire qui est une aire naturelle qui va être gérée de façon participative par des élèves du CM2 jusqu'au lycée. Et l'idée, dans un premier temps, voilà, c'est de réaliser des inventaires, de comprendre comment ce lieu fonctionne, et surtout comprendre l'écosystème, voilà, tous les rapports qu'il va y avoir, et y compris avec les humains, sur ce lieu. Donc ça, c'est le premier temps. Et le deuxième temps, ça va être aux élèves de prendre des décisions pour préserver ou restaurer ce lieu, avec l'aide, bien sûr, de partenaires, comme ça peut être l'OFB, ça peut être d'autres personnes. Nous, on peut être amené à présenter notre métier dans ce cadre-là. On peut être amené à animer un atelier sur les champs des oiseaux pour les aider à faire l'inventaire. Ou également développer une question particulière comme aujourd'hui le castor d'Europe. Là, aujourd'hui, nous sommes en appui pour les aires terrestres éducatives. Voilà, nous sommes partenaires, nous intervenons en fait à double titre. À la fois, nous finançons les aires terrestres éducatives. Et également on peut servir de soutien, donc intervenir dans le cadre de ces aires terrestres, tout comme pourrait le faire FNE, le Conservatoire Botanique, la Fédération de Chasse, la Chambre d'Agriculture et plein d'autres personnes, pour les aider du coup à gérer ces lieux.
Alors les aires terrestres éducatives dans le département, c'est 15 lieux qui sont à chaque fois rattachés ou à des communes ou à des écoles. Ici, on est sur un schéma un peu particulier puisque c'est plusieurs établissements qui sont impliqués avec Montauban et le Grand Montauban, avec la participation du conseil départemental, de la région. En fait, il y a de nombreux partenaires. Et ce qui est impressionnant, c'est la taille de cette ATE qui est sans commune mesure. Hein. On a certains ATE, c'est juste une petite mare à côté de l'école, par exemple. Ici, on est vraiment sur une zone et comme viennent de le dire les élèves, ça permet de bien observer la biodiversité et surtout d'amener autre chose pour l'éducation et notamment la classe hors la classe, comme on dit. Et c'est un enjeu très important aujourd'hui, et faire que ce soit les jeunes qui se saisissent de cette thématique, c'est quelque chose qu'on met en valeur. Et donc l'éducation nationale met toute sa part. C'est un projet qui est assez récent finalement, les ATE, et qui se développe. On a un objectif qui est très ambitieux, puisqu'on devrait avoir 130 ATE d'ici quelques années. Ça va être difficile à atteindre, mais je sais que la mobilisation des enseignants et des personnels de direction, des directeurs d'école, devrait permettre de se rapprocher de ce chiffre. Ce qui est important dans ce type d'action, c'est la mutualisation aussi de ce que font les uns et les autres, puisque sur les ATE, il y a vraiment des choses qui sont très différentes. Parfois, on est sur du milieu humide, c'est un peu le cas ici, et il y a d'autres endroits où on est sur d'autres configurations. Je suis allé visiter l'année dernière l'ATE d'Albi, par exemple, qui se rapproche un petit peu de celle qu'il y a ici, et on voit qu'elle s'est développée au fur et à mesure, qu'il y a de plus en plus d'écoles qui y participent. Donc,
Le bilan pour nous en termes d'éducation à l'environnement, il a été assez rapide à faire. C'est qu'il manquait notamment des intervenants au sein du département pour accompagner toutes les demandes de la part des professeurs, que ce soit à l'échelle des écoles, des collèges ou des lycées. Dans le département, on a quelques structures qui sont présentes, comme le CPIE du côté de Caylus, la Fédération de pêche qui intervient un peu sur tout le département, la Fédération de chasse également, ou Campagne Vivante plus spécifiquement sur le sujet de la haie. Et nous, on recevait assez régulièrement des demandes de la part des instituteurs pour intervenir sur des sujets de biodiversité, sur des sujets de climat. Et grâce à l'arrivée de Kevin, donc médiateur au sein de France Nature Environnement depuis quelques mois, on a pu justement mettre en place un certain nombre d'actions avec des professeurs. Et donc aujourd'hui, on a 8 aires terrestres éducatives sur le département, et on espère prochainement en faire d'autres avec d'autres établissements.
Un projet d'aire terrestre éducative, c'est centré autour des élèves. Mais pour s'assurer que le projet réussisse, c'est avant tout un solide binôme entre l'enseignant et le membre de la structure accompagnatrice. Sur ce point, c'est moi-même qui m'en suis chargé en tant que médiateur scientifique. J'ai co-construit l'ensemble des sorties que nous avons pu réaliser mois après mois sur le terrain avec mon collègue enseignant. C'est beaucoup de travail, et justement, pour les enseignants en particulier qui doivent faire vivre le projet en dehors des sorties de terrain avec moi, afin de lui donner une cohérence tout au long de l'année. Mais c'est un projet qui vaut le coup, et on écoute tout de suite le retour d'expérience de Laurence Delprat, enseignante au collège Olympe de Gouges, Cécile Pointereau-Sapim du collège Manuel Azania, Catherine Mondange de l'école Georges Coulonge et Nathalie Rouquette du lycée Michelet. Et pourquoi est-ce qu'elles ont souhaité faire ce projet ?
Mais ça se passe très bien, parce que justement, on essaye de raccrocher nos cours et les programmes à la vie, à ce qui les entoure. Hein. Donc, moi, j'ai fait le choix de faire ça sur une classe de 6e. Et dans les 6e, au niveau du programme des 6e, il y a effectivement la découverte de l'environnement. Et en fait, c'est du concret. On fait classe dehors. Les élèves apprennent vraiment en observant, en étudiant, en comprenant. Voilà, on est dans une approche de la complexité d'un écosystème. Et ça se passe très très bien. Ça devrait être tout le temps comme ça, les cours de SVT. Hein. En tout cas, là, on est sur la fin du cycle 3 et on pourrait quasiment faire tous les cours dehors. Ouais.
Alors, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec tous les référents éco-délégués d'autres établissements. Et donc ce projet, on a voulu le mettre en place, on a demandé à la mairie un espace, ils ont accepté, donc après on a choisi nos classes et on est 5 établissements scolaires à travailler tous ensemble, de l'école primaire au collège et au lycée. Et donc voilà, on se voit entre collègues adultes, on se réunit entre tous les élèves, on essaye de travailler au mieux tous ensemble. Mais il y a plein de choses qui ont été mises en place, je pense que ce sera mes élèves qui vous en parleront mieux. Alors ça nous a pris pas mal de temps, on a fait 3 sorties sur le terrain avec ma classe, c'est une classe de 4e du collège. On a fait 3 du coup résumés en classe. On a fait aussi un résumé commun avec l'école Georges Coulonge, parce que dans le cadre de la liaison CM2-6e, on travaille aussi avec les éco-délégués et les élèves de Georges Coulonge. Donc on a été là-bas pour faire ce bilan ensemble, pour s'échanger nos pratiques avec les élèves de CM2. Ça faisait une bonne liaison avec. C'est des écoles de secteur, donc du coup on travaille école de secteur et collège.
Nous à l'école on travaille beaucoup sur le développement durable. Avec le collège Azania dont on dépend, on a souvent parlé d'ATE. Et donc, quand on nous a proposé de faire partie de cette ATE, évidemment, on a sauté dessus. Et je trouve que c'est intéressant pour les élèves d'être sensibilisés à la nature, à un quartier de leur ville, et à mieux comprendre comment ça fonctionne, comment pour les protéger, comment sensibiliser eux-mêmes les parents, tout le monde.
Oui, dans le programme de seconde, on traite la biodiversité. On traite la biodiversité actuelle, mais aussi la biodiversité au cours du temps. Donc l'idée, effectivement, de récolter les plantes, c'est de confectionner un herbier, mais ensuite de voir, peut-être dans 2-3 ans, voir si les végétaux ont changé.
Comment font les élèves pour prendre une décision et choisir leur site, leur sujet d'étude ou leurs actions? C'est grâce à un conseil de la Terre. Et on écoute tout de suite Mohamed, élève du collège Manuel Azania, et Émilie Land, enseignante documentaliste du collège Olympe de Gouges, nous expliquer le principe.
En fait, c'est des débriefings de ce qu'on a fait dans la journée, de ce qu'on a accompli, des objectifs qu'on a réussi. Et du coup, on mettait tout en place, on disait comment ça s'était passé, si on avait aimé, et quoi faire pour les prochaines sorties, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer.
Donc nous, à Olympe de Gouges, on a amené deux classes de 6e qui sont parties pendant du projet, dont une classe de SECPA. Et donc, ils ont fait une première sortie sur le terrain, justement, pour choisir, voir tous les terrains qui étaient proposés, là, les quatre, et choisir un conseil de vie de la Terre. Donc, ils se sont tous réunis et ils ont tous argumenté pourquoi ils choisissaient. Donc, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est le parc du Treil. Ça a fait l'objet de débats avec un président de séance, des maîtres du temps. Ça a créé un débat vraiment... avec une argumentation, et c'est le choix des élèves qui fait que le projet est porteur, en fait.
Suite à ces premiers conseils de la Terre, les élèves ont sélectionné la zone sur laquelle ils souhaitaient travailler. Pour Montauban, quatre établissements ont choisi le parc du Treil à Villebourbon, et un dernier a choisi les berges du Tarn, côté Villebourbon, le long du moulin de la Palisse. Le parc du Treil, c'est un parc public assez abandonné actuellement. De ce fait, la nature a un peu repris ses droits. Et justement, il y a de quoi étudier la faune et la flore qui s'y abritent. Côté la Palisse, il s'agit d'un long chemin de randonnée allant jusqu'au pont de l'Avenir. La zone traverse plusieurs milieux différents, allant d'une ripisylve arborée à une prairie naturelle et en friche. Pour ce qui est de l'ATE de Saint-Nopharie, je laisse la directrice de l'école, Virginie Britten, nous en dire deux mots. Pour les ATE de La Française, ce sera Céline Tarquin, directrice de l'école Jean Baillet de Lunel, qui vous expliquera quelles zones ont choisi les élèves.
Donc c'est une forêt qui appartient à un propriétaire privé, qui est venu vers nous, qui est un agriculteur à la retraite. Cette forêt, il l'entretient, mais il ne l'exploite pas. Et puis c'est quelqu'un de passionné aussi, qui en connaît l'histoire et qui a envie de transmettre des choses aux plus jeunes.
Alors cette année, les deux écoles de La Française se sont lancées dans le projet ATE. Donc l'école de Lunel, c'est autour du lac de La Française. Donc l'ATE s'intitule entre lac et forêt. Et la deuxième zone au niveau de la commune de La Française, c'est au bois de l'hôpital. Donc là, c'est la classe de CE2 de l'école JB Vert qui s'est lancée dans ce projet. Sur les deux écoles, le travail a été surtout basé sur les herbiers, l'étude des oiseaux plutôt sur la forêt de l'hôpital. Certains protocoles ont été mis en place sur l'ATE autour du lac, donc notamment le protocole avec les vers de terre. On voulait se lancer dans le protocole escargot, mais là avec la sécheresse, un peu compliqué. Il y a eu un travail qui a été fait aussi avec la Fédération de pêche sur la qualité de l'eau du lac. Sur l'autre école de la Française, ils ont plus spécifiquement travaillé justement sur le chant des oiseaux, reconnaître le chant des oiseaux, donc un travail sur l'écoute et la reconnaissance. Et le travail des herbiers a été mis en valeur le jour de la fête de l'arbre qui a eu lieu à La Française sur un week-end, et où les enfants ont pu exposer leur travail.
Allez, on fait une petite pause musicale dans ce sujet Air Terrestre Éducative avec deux artistes qu'on ne présente plus, surtout dans le coin. Voici Big Flo et Oli avec leur titre La Dernière.
Peut-être que dans 10 ans il n'y aura plus de forêt, peut-être que la mer se sera évaporée. Peut-être que on essaiera de changer d'air. Peut-être que c'est déjà trop tard pour le faire. Peut-être que on a déjà perdu le combat. Peut-être que on aura tous une puce dans le bras. Peut-être que plus personne dira le mot merci. Peut-être que l'eau s'achètera en pharmacie. Les secondes sont plus longues quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière. Dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière. Ça peut pas être la dernière. Dernière clope pour un dernier souci. Un dernier anniversaire pour une dernière bougie. Une dernière ensemble, une dernière avec toi. Une dernière nouveauté, une dernière première fois. T'as vu à la télé, ils disent que le monde est foutu. C'est ce que j'ai entendu, mais la pub a fait une coupure. On n'a plus qu'à signer, tout est déjà rempli. Dis-moi qui croire, si même l'espoir croit pas en lui. Tout est petit, du dernier étage. C'est nous le futur qu'ils imaginaient au Moyen-Âge. Je veux un drapeau multicolore dans cette réalité violente. Du dernier dinosaure à la première voiture volante. Les secondes sont plus longues quand on a la tête sous l'eau. Est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière. Dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière. Dernière, 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 dernière. Ça peut pas être la dernière. Ça peut pas être la dernière.
Vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie.
Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt, bientôt? Où est-ce que le monde nous emmène? On va vivre quand même. Est-ce qu'on arrive bientôt? Ça peut pas être la dernière, 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 dernière.
De retour dans la chronique du hérisson, émission proposée par France Nature Environnement Tarn-et-Garonne sur le sujet des aires terrestres éducatives, projet d'éducation à l'environnement soutenu et financé par l'Office français de la biodiversité, qui associe une école et une structure de l'éducation à l'environnement pour amener les élèves à découvrir par eux-mêmes une zone dans le but de la valoriser et la protéger. Évidemment, ces projets ne se montent pas avec seulement l'école et la structure accompagnatrice. Beaucoup d'autres partenaires peuvent entrer en jeu, amenant leur expertise environnementale, leurs moyens logistiques, leur appui en termes de visibilité pour le grand public, voire tout simplement leur soutien financier. On écoute quelques-uns des partenaires de l'ATE de Montauban qui nous ont rejoints cette année, ainsi que comment ils nous ont aidés. Et j'en profite, évidemment, encore une fois pour les remercier tous chaleureusement, car sans eux, le projet ne serait clairement pas aussi avancé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc merci de la part de FNE, des enseignants et des élèves, à la ville de Montauban, le département du Tarn-et-Garonne, la Fédération de pêche, plus particulièrement Matisse et Célian, le Conservatoire botanique, et plus particulièrement Jérôme, et enfin le groupe Séché Environnement, et plus particulièrement Daniel et Cédric.
Alors le rôle il est très simple, nous on accompagne le projet sur l'implantation géographique, sur le soutien logistique de ce projet. Moi, je suis ravi de voir ce projet qui réunit plusieurs, à la fois des écoles, des collèges, des lycées. Donc, on est vraiment sur une large tranche d'âge avec une sensibilisation à l'environnement qui est très importante aujourd'hui.
Oui, bonjour à tous. Donc, nous, effectivement, le conseil départemental est en charge des collèges, comme vous l'avez dit. Les aires éducatives terrestres, c'est plus large, ça démarre des écoles primaires et ça va jusqu'au collège. L'objectif du conseil départemental, bien entendu, c'est d'accompagner toutes les actions pédagogiques qui peuvent être faites par les établissements scolaires et notamment avec FNE sur les aires éducatives terrestres et le travail qui a été fait à Montauban sur le parc du Treil. Donc on vient en soutien sur ces opérations-là, puisqu'il faut effectivement, comme l'a dit Mohamed, préserver la nature, faire prendre conscience qu'il faut la protéger. On voit ici tout ce qui a pu être fait pendant le travail. On a vu aussi qu'on avait des castors qui revenaient, donc ce sont des bonnes nouvelles. Et il faut... on n'a pas été très bons, nous les vieux. Il va falloir que la jeunesse prenne le relais et vienne vraiment défendre la nature parce qu'elle en a bien besoin. Et le travail qui est fait, encadré par FNE, est extraordinaire à ce niveau-là.
Et j'ai été sollicité par France Nature Environnement, par Kevin, en fait, pour intervenir lors de cette journée au parc du Treil, pour accompagner les élèves en fait à la reconnaissance d'un certain nombre de végétaux. Voilà, ça a permis d'expliquer aussi quelles étaient mes missions et puis voilà de pouvoir expliquer la diversité des végétaux qu'on pouvait trouver dans des parcs urbains. Je passe plutôt d'un stand à l'autre et là je m'intéresse un peu au travail justement au rendu puisque ça a été la collecte des plantes sur le terrain avec les élèves, l'identification de ces plantes. Et ça me permet de voir le résultat de leurs travaux, en fait. Et ce qui est plutôt pas mal, je leur disais justement tout à l'heure que la recherche d'informations supplémentaires, la plante, connaître le nom de la plante, c'est bien, mais savoir aussi son histoire, savoir ses vertus, ses propriétés, c'est aussi des éléments qui sont tout aussi intéressants. Et puis ils ont fait un super travail avec tout un tas de questions.
Alors nous à la Fédération de pêche, qu'on a notre intervention à nous, donc à travers les ATE, c'est de mettre en place un atelier en fait de sensibilisation à l'environnement et de manière plus générale au milieu aquatique. Et on essaie de montrer un petit peu toute la vie aquatique qu'on peut trouver sur le Tarn et de donner une note écologique en fait au cours d'eau du Tarn à travers un atelier petit scientifique où les enfants vont d'eux-mêmes se rendre compte un peu de toute la biodiversité qu'on peut trouver en bordure de cours d'eau et grâce à ça donner une note écologique.
Toutes ces opérations-là qui vont être faites sur les publics de scolaires, tout ce qui va être en lien avec l'environnement, la gestion des déchets, mais aussi la biodiversité, on va essayer de les soutenir, de les accompagner, parce que c'est des sujets, c'est un petit peu la colonne vertébrale de nos métiers, mais ça fait aussi partie des sujets sur lesquels notre groupe Séché, on est quand même très engagé depuis la création du groupe, hein. Et avec notamment les enjeux santé, environnement et biodiversité, puisqu'on considère que tous ces sujets-là sont vraiment liés.
Je laisse maintenant la place aux élèves pour qu'ils puissent vous raconter quelques exemples d'actions ou de sujets qu'ils ont souhaité étudier durant cette première année sur le terrain. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sujets qui ont plutôt bien marqué leurs esprits, particulièrement au parc du Treil de Montauban.
On a d'abord travaillé, on a regardé là-bas, on est y allé. On a ramassé les déchets pour nettoyer. Après, on a regardé les bêtes qu'il y avait dans l'eau, qu'est-ce qu'il y avait pour la chaîne alimentaire. Et après, on a réfléchi pour ce qu'on allait y mettre pour améliorer notre air terrestre.
En fait, ça s'est déroulé sur toute la journée. Du coup, on allait au parc du Treil. On regardait les oiseaux, on débarrassait, on ramassait les déchets. Il y avait parfois, c'était un peu compliqué, comme le premier jour, parce que c'était inondé, c'était rempli de boue, on avait de la boue jusqu'aux genoux. Mais bon, c'était ça qui était marrant, ça apportait un petit plus à la sortie.
Et déjà, on a trouvé beaucoup de déchets là-bas, et notamment des déchets auxquels on ne s'attendait pas. On a trouvé des portes, des chaises, des palettes et tout ce qui est canettes et autres contenants.
Donc on a fait un herbier, donc tout d'abord on a été au parc du Treil pour récupérer les plantes. La première fois, elle n'a pas été très concluante car les plantes ont moisi pendant le temps de séchage. Donc nous avons dû y retourner une deuxième fois, où il a plu malheureusement. Ensuite, cette fois, les plantes ont bien séché. Une fois les plantes séchées, nous avons dû faire des recherches sur Internet pour ensuite justement créer l'herbier que nous sommes en train d'exposer actuellement. Et nous avons créé des questions sur les plantes. Et nous avons donc fait un atelier avec ces questions où les gens doivent y répondre par équipe.
Je suis Marius de l'école de Lunel. Avec ma classe, on a pensé à faire pour l'année prochaine ce qu'on pourrait faire. Et on avait trouvé pour les mégots, mettre plus de cendriers sur les tables et rajouter un petit panneau.
Je suis Peyo. On avait pensé aussi à mettre plus de fleurs pour attirer les insectes et pour que ça attire les oiseaux aussi. Aussi, qu'on mettait des panneaux pour avertir qu'il y avait des animaux et il fallait pas les embêter. Par exemple, le sanglier, les chevreuils, le renard, tout ce qu'on a vu dans les alentours du lac.
Avec des jumelles, nous avons observé des oiseaux en se plaçant sur les bords du Tarn. Fallait être très silencieux pour ne pas les effrayer.
Et nous avons observé les oiseaux de loin avec la longue vue. Et la longue vue, elle nous permet de mieux voir les oiseaux, surtout sur l'île de la Pissotte.
Nous avons aussi essayé de nous familiariser avec le chant des oiseaux pour pouvoir identifier ceux qui restent cachés. Par exemple, nous avons observé le rotelet triple bandeau,
la pie bavarde,
le héron cendré qui est une espèce menacée,
le pinson des arbres,
la mésange charbonnière,
la bergeronnette des ruisseaux,
les grêles gorgettes,
le moineau domestique,
la corneille noire,
le merle noir,
la mésange bleue,
le rouge gorgé familier,
le pigeon ramier,
la tourterelle turque,
le canard col vert,
le martin pêcheur, c'est une espèce menacée,
le pic vert,
le faucon pèlerin,
le billot gris, c'est une espèce menacée,
la poule d'eau,
la bergeronnette grise,
le jet des chênes,
la grive musicienne,
la fauvette à la tête noire,
le pouillot véloce,
l'ourite à longue queue,
le milan noir,
le pigeon bisé.
En classe, on a fabriqué des jeux sur les oiseaux. Par exemple, le défi chrono qui nous a permis de mémoriser des connaissances sur les oiseaux.
On les a aussi présentés à la journée de restitution des ATE.
On les a aussi présentés au forum sur la biodiversité qui a eu lieu à l'université.
Comme vous avez pu l'entendre, nous avons déjà fait pas mal de choses sur ces quelques premières sorties. Et ça a été couplé par un travail des enseignantes en parallèle du projet dans les classes. Au fur et à mesure des sorties, les enseignantes ont pu constater une évolution de leurs élèves tant sur leur approche et leur comportement sur le terrain et pour le projet, que parfois aussi au sein même de la classe. On écoute Émilie Lande du Collège Olympe de Gouges, Catherine Mondange et Johan de l'école Georges Coulonges, Mohamed et Céline Pointerot-Sapim du Collège Manuel Azania, Virginie Britaine de l'école Paul Bonance de Saint-Nopharie, Céline Tarquin de l'école Jean Baillet de la Française, Céline Tarquin de l'école Jean Baillet de la Française et Marilyn Barthes de l'école Jules Guesde de Montauban.
Nous, à Olympe de Gouges, on a amené deux classes de 6e qui sont parties prenantes du projet, dont une classe de SECPA. On a constaté dans les dernières sorties qu'on a pu faire qu'il y avait une vraie capacité d'attention, qu'ils se concentraient vraiment sur leurs tâches. Donc, c'était la reconnaissance d'oiseaux. Ils ont fait un herbier également. Ils ont ramassé des déchets, parce que ça a été le premier constat. C'était de voir que, il y avait des déchets partout. Donc, une des premières actions qu'ils ont voulu mettre en place, c'était d'aller ramasser ces déchets, de faire en sorte que le lieu soit propre, en fait.
Ben oui, je pense que la formation à la protection de la nature est importante dès l'école primaire, mais il faut que ça continue. C'est une éducation qui, maintenant, de nos jours, est primordiale. Il faut que ça continue tout au long de leur scolarité, que ce soit au collège, au lycée et plus tard.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'oiseaux dans les arbres, etc. Et grâce à l'ATE, on a pu apprendre de nouvelles espèces d'oiseaux. Moi je pense que je vais retourner avec mes parents où on est allé, parce que c'est super sympa et on est vraiment dans la nature.
Que la nature, faut la protéger, faut en prendre soin, parce que c'est la terre pour laquelle on vit. Et que pareil, c'est ce genre de sortie, ça apprend les bonnes valeurs. Comment, qu'est-ce qu'on a autour de nous, la nature?
L'investissement, la motivation. Aujourd'hui, il pleut, on est arrivé à pied sous la pluie. Malgré tout, il faut réaliser le projet jusqu'au bout. Les échanges entre eux, s'écouter, les échanges avec les adultes qui nous encadrent. Il y a eu des bénévoles de FNE qui sont venus. En classe, il faut faire appel à son ouverture d'esprit pour se projeter, pour mettre à plat les idées, pour les visualiser, pour y compris, moi j'ai travaillé aussi avec mon collègue de techno et mon collègue de maths, qui est ici aujourd'hui, pour après mettre en place, visualiser le projet abouti. Donc tout ça, il faut de la patience, il faut de la concertation, et y compris entre eux, pour poser à plat toutes les idées.
Donc oui, il y a eu des effets sur les élèves. Tout d'abord, sur les élèves qui ont un peu de mal avec les apprentissages scolaires en classe. Là, on voit que quand on est dans la forêt, ils font volontiers les tâches demandées, ils sont concentrés, ils sont bien, on les sent bien. Voilà. Après, globalement, le projet est motivant pour tous les élèves, c'est-à-dire ils ont envie de s'impliquer quand on fait les conseils de la terre. Ils prennent toujours des décisions pour être dans l'action. Et après, moi, ce que j'ai senti tout le long de l'année, c'est une évolution de leur comportement vis-à-vis de la forêt, avec beaucoup plus de respect sur les êtres vivants en général. Une capacité aussi d'écoute et de concentration qui a augmenté au fur et à mesure. Et le dernier effet, c'est qu'ils sont aussi capables de transposer des apprentissages faits en classe. Par exemple, on avait travaillé la symétrie. Et quand on est en forêt, ils prennent une feuille de chêne et ils viennent me voir en me disant que quand on la plie, elle peut être symétrique. Et donc ça, c'est bien parce que ça s'étend au-delà du projet.
Donc cette année, on a pu observer déjà les enfants qui observent un peu plus ce qui les entoure. Ils ont plus une observation, notamment des végétaux, les animaux aussi grâce aux caméras trappes qui leur a permis de découvrir quels animaux vivaient soit au bois de l'hôpital, soit autour du lac. Ils ont évolué dans leur recherche, quand on a travaillé sur les herbiers notamment, pour savoir sélectionner vraiment les bonnes informations, pour réfléchir comment le communiquer pour l'exposition, pour la fête de l'arbre. Donc là-dessus, il y a eu vraiment une grosse évolution de la part des élèves, notamment sur la réflexion ou la recherche. Et ensuite, ils sont très motivés, et je sais que les élèves de ma collègue, puisque c'est les CM1, CM2 qui vont continuer le projet sur JB Vert, vont être aussi très intéressés pour continuer ce projet-là l'année prochaine et justement faire évoluer peut-être la vision de certaines zones de la commune et une grosse mise en valeur, puisque la mairie aussi soutient ces projets pour la mise en valeur de ces deux sites.
Lors de notre première sortie au parc du trail, les élèves ont été tout de suite très investis. Et à ma grande surprise, certains élèves qui éprouvent des difficultés dans les apprentissages et qui peuvent être perturbateurs en classe ont été très sérieux et assidus sur ce projet. De façon générale, j'ai observé qu'au cours du projet, les élèves devenaient davantage conscients et respectueux de leur environnement. Par exemple, ils ont découvert des déchets qui les ont vraiment choqués, valises, canapés, jetés en pleine nature. Et ils ont voulu réfléchir comment on pouvait rendre ce lieu plus accueillant et le respecter davantage.
Pour finir sur le sujet des aires terrestres éducatives, je vous propose tout simplement de vous faire un petit résumé des premiers résultats obtenus par nos élèves à Montauban, le long des berges du Tarn, côté parc du Treil et la Palisse, ainsi qu'à La Française. Alors on va commencer avec Montauban. Les élèves ont pu découvrir un total de 79 espèces de plantes sur leur ATE, pour la plupart des espèces assez communes comme la rhomme d'Italie, la molène, le figuier. Au parc du Treil, ils ont découvert la présence de la renouée du Japon, une espèce envahissante. L'an prochain, il est possible que nous travaillions davantage sur cette espèce dans l'optique de faire intervenir les élèves et essayer de réguler sa présence dans le parc. Au niveau des oiseaux, l'inventaire a également été fructueux, puisqu'on a découvert 45 espèces, en pleine ville. Comme quoi, c'est quand même possible lorsqu'on laisse place à la nature, il y a de la biodiversité. Nous avons également constaté la présence d'espèces en danger, comme le bihoreau gris et le martin pêcheur d'Europe. Et une classe a même eu la chance de voir le faucon pèlerin posé au milieu des hérons cendrés et des grands cormorans. Au niveau de la qualité de l'eau, grâce à la Fédération de pêche, le collège Olympe de Gouges a pu donner une note au cours d'eau du Tarn grâce à l'identification des invertébrés aquatiques qui servent de bio-indicateurs. Le résultat est plutôt passable, sans être non plus mauvais, mais la mesure a été effectuée en amont des tuyaux d'évacuation d'assainissement de la ville. La qualité du sol a également été étudiée grâce à un inventaire des vers de terre. Les résultats sont à affiner, car le protocole n'a pas été réalisé un assez grand nombre de fois, mais il semblerait que la qualité du sol du parc du Treil soit mauvaise, alors que la zone de prairie de la Palisse serait plutôt bonne au contraire. Affaire à suivre. Grâce à des caméras trappes, 13 espèces de mammifères ont été surprises vivant le long des berges du Tarn, et notamment au parc du Treil, donc très proche du centre-ville, notamment la loutre et le castor. Enfin, en ce qui concerne les déchets, les élèves ont été choqués par la quantité de déchets présents dans le parc du Treil, à tel point qu'ils ont voulu agir dès cette année. et en un seul ramassage, c'est plus de 1730 litres de déchets qui ont été collectés. Des palettes, de la ferraille, des chaises en plastique, mais aussi des sacs et des sacs de canettes, de bouteilles en verre et en plastique, d'emballages alimentaires et de vêtements. Il ne fait aucun doute que les élèves agiront sur ce sujet l'an prochain afin de sensibiliser les usagers du parc et proposer une stratégie pour éviter que cet endroit ne reste une telle décharge sauvage. Côté la française, les élèves ont également fait beaucoup de belles découvertes. Côté plantes, c'est 50 espèces qui ont été trouvées. Les élèves en charge du bois de l'hôpital ont pu observer plusieurs espèces d'orchidées et de fougères, tandis que ceux en charge de la vallée des loisirs ont pu observer la présence de fougères aigles et de pétasites des Pyrénées, deux espèces envahissantes. Au niveau des oiseaux, c'est 31 espèces qui ont pu être observées cumulées sur les deux sites, comme le loriot d'Europe, le pic noir, la buse variable ou encore la citelle torchepeau et le roitelet triple bandeau. Les caméras trappes positionnées sur les deux sites ont révélé 16 espèces, dont le blaireau, le chevreuil, la fouine ou la bécasse des bois. Enfin, les élèves de l'école Jean Baillet de Lunel ont réalisé, encore une fois grâce à la Fédération de pêche, une étude de la qualité de l'eau du lac. Le lac étant artificiel et son eau stagnante, les résultats n'ont malheureusement pas été très bons, les spécimens les plus sensibles étant des espèces de libellules pas très exigeantes sur la qualité de leur milieu. Ils ont également réalisé un ramassage de déchets autour des zones de pique-nique, et le constat a été révoltant. Si la présence de déchets de type emballage est quasi nulle, en revanche, c'est plus de 240 mégots qui ont été trouvés sur un seul lieu de pique-nique, alors que ce dernier disposait de poubelles. Les élèves vont réfléchir et faire remonter leurs idées à la collectivité, qui soutient activement le projet, pour trouver une solution, car lorsqu'on sait qu'un mégot pollue 500 litres d'eau à lui tout seul, il est inconcevable de ne pas agir sur un site aquatique comme la vallée des loisirs. L'an prochain, de nouvelles aires terrestres éducatives verront le jour en Tarn-et-Garonne avec le soutien de FNE 82. Nous aurons notamment l'école du centre, l'école Ferdinand Buisson, le collège Jean Jaurès et le lycée agricole de Capoue à Montauban qui nous rejoindront. Nous aurons également l'école créative de Fontneuve qui agira sur un site proche de leur école. Côté la française, c'est le collège Antonin Perbosque qui rejoindra le projet. Enfin, Castel-Sarrasin entrera également dans la danse avec l'école primaire des Cloutiers. Si vous êtes enseignant et que le projet pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous à l'adresse contact.fne82@gmail.com pour que nous puissions vous donner plus d'informations. Je vous propose maintenant une seconde pause musicale avant d'attaquer une petite actu prévention sur la canicule. Pour cela, je vous fais découvrir un jeune artiste originaire d'Auxerre au texte particulièrement affûté. Voici Pétrole Brut et son titre, malheureusement beaucoup trop d'actualité, Banquise.
Banquise. Nom féminin, couche de glace des régions polaires. Polaire, ça renvoie au climat, et par rebond des règlements climatiques. On nous saoule avec ça depuis qu'on est né. On dit que c'est le sable mouvant dans lequel on enfonce nos chevilles jour après jour. Demain, les hanches, et oula oup dans un cliché j'avoue. Parce qu'on la connaît la photo, les glaciers qui ont plus la clim, la piscine qui déborde et l'œil qu'on détourne. Mais c'est cool, l'automne est plus chaud. On économise en manteau et on gagne en style. McDo se maquille en vert, Total est une électrique lady et moi je coupe le robinet entre deux allers-retours à Montréal. Le greenwashing fait sa grande entrée au hit-parade aussi et putain qu'est-ce que ça chante faux. Derrière les grands étendards y'a un avion qui passe et merde, j'ai mis le couvercle du pot de moutarde dans la benne à verre. Banquise. Banquise. Bien. Moi j'ai pas plus chaud. Moi je crois que la terre elle va bien. Et je crois qu'on nous ment plutôt. Et puis on gagne en style toujours. L'hiver je me sape mieux. Je garde mes claquettes en décembre. Et le reste je verrai ça vieux. Et les gamins le diront qu'on faisait tous semblant. Y'a eu le dollar, le taureau et le daron qui est parti à 50. Mais la faute à personne. La faute à pas de chance. ou la faute à qui diront qu'une tomate au glyphosate, ça n'a pas de sens. Mais on s'en fout, on a bien vécu, Inch'Allah, et puis sans rancune. Ça brûle peut-être en Australie, mais moi, la putain de vie, j'en ai qu'une. Et je compte la boire jusqu'à la lie. Stop le JT jusqu'à lundi. Remets-moi donc un verre à la Nice. Et demain, peut-être, je serrerai la vis. Okay. Banquise. Ouais, y'a les pingouins. Mais pourquoi moi je me priverais? Va donc dire tout ça à l'Indien, ou bien aux Russes, ou aux Chinois. De toute façon, je me sens plus chez moi. Je voulais mettre une piscine, on m'a dit. Garde tes hortensias, putain. Mais laissez-moi vivre. On finira tous en tas de cendres. Alors si demain j'ai envie, je pars en Boeing chercher le croissant. Et qui m'en empêchera? Je roule même plus à l'essence. 50K à la Tesla ou l'électrique obsolescence. Et faut que je demande pardon pour l'océan de plastique. Alors j'ai pris une paille en carton pour sauver l'Antarctique. Et toi tu me dis l'air de rien, que j'ai du sang sur les doigts. Une fumée noire.
Info, alerte et bonne nouvelle, voici les actus de FNE 82. Pour l'actu de cette dernière chronique de la saison, je souhaitais simplement prendre un petit temps pour faire un petit point et un peu de prévention concernant les vagues de chaleur et les canicules que nous subissons depuis fin mai. Alors oui, les médias évitent d'une façon assez prodigieuse d'en parler, mais les canicules, il va falloir s'y habituer. Le réchauffement climatique s'accentue, il prend même de vitesse les prévisions des scientifiques. C'est dire à quel point les efforts faits par les gouvernements mondiaux, dont la France, sont risibles par rapport à ce qu'ils devraient être. Il fait toujours plus chaud, toujours plus tôt, toujours plus longtemps, et ça n'ira pas en s'arrangeant. Et c'est la faute des politiques mondiales en place. Pourtant, on peut agir, et il faut agir, plus vite et plus fort. Mais pas à coup de clim, qui ne fait que déplacer le problème temporairement. Il faut voir à plus long terme. C'est d'ailleurs assez dramatique de voir que la médiatisation de la canicule ne passe actuellement que par le faux débat autour de la climatisation. C'est l'arbre qui cache la forêt. La climatisation, c'est le sparadrap court-termiste du problème de fond. Prendre des mesures ambitieuses et écologiquement responsables contre le changement climatique. Sans parler qu'à long terme, la climatisation posera bien des problèmes. Ça va aggraver la situation. Mais ça chute, il faut pas le dire. Les collectivités sont les premiers boucliers contre ces épisodes de chaleur. À travers le débétonnage, la végétalisation massive et intelligente des villes, l'agrandissement des parcs, elles peuvent lutter contre ces températures extrêmes et ramener de la fraîcheur dans les villes. Oui, dans les villes, il fait plus chaud qu'à la campagne, car les bâtiments et l'artificialisation absorbent la chaleur, la réfléchissent et, pendant la nuit, la restituent. En fait, c'est un piège permanent. La présence de plantes, notamment de grands arbres à canopée étendue et plantés de façon dense, permet de capter entre 70 et 90% des rayonnements solaires. L'évaporation de transpiration des plantes permet également de faire diminuer la température à proximité. À titre d'exemple, en période de canicule, un sol artificialisé peut atteindre 73 degrés, une vraie fournaise, alors qu'une pelouse ne sera qu'à 27 degrés à côté. La différence, elle est gigantesque. Alors j'espère que vous comprenez à quel point il faut redonner une large place à la végétation et particulièrement aux grands arbres dans les villes, et à quel point il faut déminéraliser et désimperméabiliser le sol. Pour aller plus loin dans la lutte contre les températures extrêmes, il faudrait également envisager de végétaliser massivement les bâtiments, les toits et même les murs. Végétaliser un toit permet une meilleure isolation du bâtiment. En été, ça fait baisser la température à l'intérieur du bâtiment de 2 degrés et la température de surface extérieure de 10 à 20 degrés. La végétalisation des murs, lorsqu'elle est suffisante, permet quant à elle de faire chuter la température de l'air de 3 degrés, le tout en luttant contre ce phénomène d'accumulation et de réflexion de chaleur dont je vous parlais juste avant. En plus, ce n'est pas uniquement bon pour lutter contre le changement climatique. La végétalisation des bâtiments améliore la qualité de l'air respirable, car les plantes absorbent une partie des polluants atmosphériques. Si les bâtiments sont plus frais, il y a moins besoin de climatiser, ce qui signifie économie d'énergie et moins de dégagement de chaleur vers l'extérieur. Plus de plantes signifie aussi une meilleure gestion des précipitations. L'eau est davantage retenue. Et enfin, végétaliser signifie également accueillir plus de biodiversité dans la ville. L'État doit agir aussi, à travers une augmentation du budget dédié à la lutte contre le changement climatique, comme une campagne d'isolation des bâtiments par exemple. Pourtant, on observe l'inverse. France Rénov' se fait raboter d'année en année, alors que le dispositif permet à des milliers de personnes de s'équiper contre les températures extrêmes. Ces deux dernières années, le budget du Fonds vert, dispositif servant à la base à financer les projets en faveur de la transition écologique, eh bien ça a été divisé par 4. On est passé de 3,6 milliards d'euros à 837 millions d'euros seulement. De façon générale, dans notre pays, on observe depuis plusieurs années des tentatives de détricotage alarmantes des lois environnementales, alors qu'au contraire, les enjeux actuels exigeraient tout l'inverse. On marche sur la tête. Vous voyez le film « Don't Look Up » d'Annie Cosmic ? Ben, on a l'impression d'y être en plein dedans au niveau du changement climatique. Si on veut agir contre ça, c'est à nous de jouer, car notre action se passe dans les urnes. Si nous souhaitons lutter contre le changement climatique, lisons bien les programmes politiques. Regardons ce que votent les différents partis à l'Assemblée nationale pour faire notre choix éclairé. N'écoutons pas les beaux discours à la télé, ils sont faits pour nous endormir ou nous manipuler. Surtout en matière d'environnement où les fake news se multiplient et s'assoient allègrement sur des dizaines d'années de recherches scientifiques. Regardons les actes, regardons les votes des partis. C'est le seul élément qui révèle les vraies intentions, et ça quel que soit le sujet, pas seulement en termes d'environnement. Maintenant, tout ça, ça va prendre du temps. Et pourtant, les canicules sont bien là. J'en profite donc pour vous rappeler quelques bons gestes à prendre dès maintenant pour essayer de mieux supporter l'été. Ce ne sera rien d'extraordinaire, mais ça ne fait pas de mal de les répéter. Tout d'abord, concernant votre logement, faites en sorte d'empêcher au maximum la lumière et la chaleur de rentrer pendant la journée et particulièrement du côté où le soleil tape directement. Fermez les volets, occultez avec des rideaux opaques et de couleur claire. C'est le premier combat à mener car une fois que la chaleur est rentrée, il est difficile de rafraîchir son intérieur. Tôt le matin, ou pendant la nuit uniquement s'il fait plus frais dehors, pensez à ouvrir en grand et laisser circuler l'air. S'il fait plus frais dehors et que vous avez plusieurs ventilateurs, vous pouvez tenter de créer un courant d'air en positionnant au niveau des fenêtres un ventilateur pour faire entrer l'air frais d'un côté et un ventilateur pour faire sortir l'air chaud de l'autre. Si malgré tout ça, votre logement est encore trop chaud, n'hésitez pas à vous organiser une journée dans des lieux climatisés, des bibliothèques, des cinémas, des musées et au pire des centres commerciaux. Attention cependant à ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes de la journée, c'est-à-dire entre 11h et 21h en cas de canicule. Si vous avez la possibilité, décalez votre journée. Levez-vous plus tôt, vers 6h du matin, pour profiter des meilleures heures de la journée et pouvoir être de retour à la maison, à l'abri, lors des heures les plus chaudes. Concernant vos vêtements, si vous êtes exposé au soleil, privilégiez les couleurs claires, comme le blanc ou le jaune, et les vêtements amples, pour laisser le corps respirer au maximum. Pour information, la température ressentie à la surface d'un vêtement noir porté en plein soleil est 15 degrés supérieure à celle d'un vêtement blanc. Le noir absorbe la quasi-totalité des rayonnements, alors que le blanc la réfléchit. Il reste donc plus frais. Partant de canicule, s'habiller en blanc peut donc faire la différence. Par contre, si vous êtes à l'ombre, ça va être la matière, l'épaisseur et la respirabilité du tissu qui fera la différence. C'est là que porter des vêtements légers et très amples fera la différence, car l'air circulera entre votre peau et le tissu. Et pourquoi pas aussi compter un peu sur la solidarité. Si vous avez un logement frais, n'hésitez pas à accueillir vos amis qui n'ont peut-être pas cette chance, l'espace de quelques heures, de temps en temps, pour les soulager. Et cela particulièrement si vous connaissez des personnes plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec des maladies chroniques, les personnes avec des enfants en bas âge, les femmes enceintes. N'hésitez pas à prendre des nouvelles de vos proches aussi, particulièrement s'ils font partie de ces personnes-là. Bien sûr, il est aussi important de limiter les activités trop physiques aux heures les plus chaudes de la journée pour éviter de faire surchauffer le corps, surtout si vous n'êtes pas dans un environnement climatisé. C'est s'exposer à un coup de chaud, un malaise et favoriser la déshydratation. Mais même dans le cas où vous êtes dans un environnement climatisé, comme une salle de sport par exemple, faites attention. À la fin de votre activité, prenez un peu de temps pour laisser votre corps redescendre en température avant de sortir vous exposer aux chaleurs de l'extérieur. Enfin, c'est l'évidence même, mais buvez de l'eau très régulièrement et essayez de limiter la consommation d'alcool. L'alcool déshydrate et donne un faux sentiment de fraîcheur et de désaltération. C'est un piège. Forcez-vous à boire de l'eau, particulièrement si vous êtes une personne âgée, car votre corps est moins efficace pour détecter votre déshydratation. Une personne âgée dispose de moins d'eau dans son corps qu'une personne plus jeune. Son sentiment de soif se déclenche plus tard et de façon moins importante. En cas de perte d'eau importante, comme pendant une canicule, avec la transpiration par exemple, les personnes âgées sont beaucoup plus exposées car elles perdent un pourcentage d'eau plus important que les personnes plus jeunes. Et elles vont le sentir plus tard et se réhydrater naturellement moins. Il faut donc que vous pensiez à compenser ces mécanismes naturels en pensant par vous-même à vous hydrater davantage. Tous les moyens sont bons, pourquoi pas une simple alarme récurrente pour penser à boire un verre d'eau ou deux. Et voilà, c'est la fin de cette chronique et de la première saison de la chronique du hérisson. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une fois toutes les personnes ayant contribué au projet des aires terrestres éducatives aux côtés de FNE cette année. Je remercie à nouveau tous les intervenants ayant contribué de façon plus large à cette émission depuis le mois de septembre. Et bien sûr, je remercie encore une fois l'équipe de CFM Radio de nous donner l'opportunité de vous proposer cette émission, en espérant que vous la trouvez utile et que le format vous intéresse. Je suis d'ailleurs preneur de vos retours, à vous aussi, vous, auditeurs. Positifs comme négatifs, tant qu'ils restent constructifs, bien sûr. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires soit sur notre Facebook, notre Instagram, ou éventuellement par mail à contact.fne82@gmail.com. Je lirai tout ça avec attention et je tâcherai d'en tenir compte pour faire évoluer l'émission. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon été, faites bien attention à vous, et on se retrouve en septembre pour la saison 2 de la chronique du hérisson. À bientôt !